Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbach, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Francia et bienvenue sur Malabar, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien et toi ?
Très bien, merci. Alors, nous, on s'est connus via LinkedIn et tout à l'heure, tu m'as posé une question très pertinente qui était de savoir comment je choisissais les personnes que j'invitais sur Malabar. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, Malabar, pour le moment, c'est moi qui vais majoritairement à la rencontre des personnes pour partager leur histoire, leur parcours et surtout leur envie d'entreprendre quand c'est des entrepreneurs. Mais il y a aussi des personnes qui viennent via le bouche à oreille. Donc, à tous ceux qui entendent ce message, si vous avez une histoire, un parcours, quelque chose que vous avez fondé et vous avez envie de partager cette histoire sur Malabar, vraiment, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, je suis avec Francia, qui est la fondatrice de la marque Rarial. Donc, est-ce que tu peux d'abord te présenter, Francia, aux auditeurs ?
D'accord, alors moi je suis Francia Rassouanaïf, je viens de Madagascar, j'ai 23 ans et je suis la fondatrice et gérante de la marque Rarial. Rarial en fait qui est une marque d'articles en fibres naturelles en raffia personnalisée que j'ai fondée il y a un an déjà. Aujourd'hui nous employons 30 artisans et voilà.
Super. Alors là, j'ai déjà 1000 questions. Déjà, tu as 23 ans, tu es super jeune et tu as déjà un très, très beau projet. Est-ce que tu peux d'abord nous parler un peu de ton parcours scolaire, parce que j'imagine que tu sors tout juste des études. Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Et comment tu es arrivée à fonder cette marque ?
Alors, j'ai eu mon bac à l'âge de 18 ans. Après, j'ai continué mon parcours universitaire à l'INSCAE, qui est un institut dans la filière comptabilité et la finance, également dans l'administration d'entreprise. J'ai eu mon master 2 l'année dernière, en 2022, dans le parcours finance. Et après ça, j'ai tout de suite j'ai tout de suite fondé mon entreprise Rarial. Enfin, j'ai commencé en 2022 sur le marché, mais concrètement, j'ai été formalisée en 2023, en janvier 2023. Et du coup, pour l'histoire, je voulais toujours entreprendre et avoir mon entreprise, mais j'ai choisi particulièrement l'artisanat. Parce que de un, je suis née dans l'artisanat, je suis fille d'artisan, et du coup c'était un peu logique et un peu pertinent de choisir le secteur où je m'y connais un peu et tout ça. Et de deux, parce que j'adore donner de l'emploi à des gens, c'est vraiment l'impact social de l'artisanat qui est très direct d'ailleurs, qui est indéniable. Je voulais apporter de l'innovation, je voulais apporter quelque chose de plus dans le secteur de l'artisanat. Du coup, là, aujourd'hui, j'ai fondé Rarial, justement, pour apporter cette innovation. Et voilà, je suis entièrement sur l'entreprise.
D'accord, très bien. Donc, à la suite, en fait, tu disais que tu as toujours voulu fonder ta boîte, en tout cas, travailler et avoir... un lien avec l'artisanat. Par curiosité, tes parents, ils font quoi ? Parce que tu disais que tes parents étaient artisans tous les deux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Alors, oui, mes parents ont été... ils sont encore artisans. Du coup, eux, ils faisaient des ventes les ventes de sacs, enfin d'articles, qu'est-ce qu'on fait par Turafia, Rabanne et tout ça. Et du coup, eux, ils avaient déjà une petite entreprise, enfin avec des clients intermédiaires qui sont grossistes à l'étranger. Et du coup, ce sont des clients qui sont fidèles et qui reviennent toutes les années. Et du coup, voilà, du coup, il y a surtout ma mère qui coud et mon père qui est très talentueux aussi comme ma mère qui peut faire des belles choses, la finition, le contrôle qualité et tout ça. Mais c'est surtout ma mère qui aime bien designer, créer quelque chose. Et du coup, c'est un peu sa passion à elle. Et du coup, ils font de pair avec mon père. Et du coup, voilà, je suis née dans l'artisanat. Quand j'étais petite, je voyais déjà les problèmes de mes parents dans le secteur, ce qu'ils passionnaient aussi. Et du coup, voilà, c'est le cas par rapport au secteur. C'était surtout que je savais dans quoi je m'embarquais. Et c'était un peu, c'était un peu évident pour moi de choisir ce secteur-là.
D'accord, très bien. Et avant de fonder Raria, donc tu disais que tu as fait des études en finance et tu as travaillé dans pas mal d'entreprises, dans des banques et notamment dans une entreprise qui est Miracap. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que c'était l'expérience que tu as eue juste avant de fonder ton entreprise à toi, donc j'imagine qu'elle a eu un rôle assez important. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience, de ce que ça t'a apporté? Et est-ce que ça t'a surtout donné envie, toi aussi, de lancer ton projet?
D'accord. Du coup, mes expériences professionnelles, oui, j'ai travaillé dans des banques, j'ai travaillé dans deux banques à Madagascar, quand on devait faire des stages en deuxième année et aussi en master. J'ai fait aussi un stage dans un département finance et comptabilité, dans une entreprise d'importation. Et finalement, oui, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Miracap pendant 9 mois. Et du coup, oui, Miracap est un fonds d'investissement qui veut accompagner des entrepreneurs ambitieux, responsables. Et du coup, ce qui m'a vraiment inspirée dans cette boîte, c'était surtout de rencontrer des entrepreneurs et de voir comment eux, ils règlent les problèmes quotidiens d'entrepreneurs, comment ils font face à tous les aléas qui existent à Madagascar, mais surtout comment eux, ils inspirent les gens, comment eux, ils font de la valeur ajoutée, ils créent quelque chose et ils sont humains. C'est, le métier d'entrepreneur, c'est pas quelque chose de... Enfin, je veux dire, c'est juste humain. Ça vient de nous, ça vient de l'entrepreneur. Et d'ailleurs, le projet, l'entreprise va dépendre majoritairement de l'entrepreneur. Du coup, quand je voyais les entrepreneurs qui interagissaient avec nous pendant mon stage, du coup, chez Miracap, ça m'a beaucoup inspirée et je voulais justement créer moi-même mon entreprise et voir de l'autre côté. Parce que chez Miracap, j'étais de l'autre côté parce qu'on était investisseurs. Et là, je devais choisir ma place aussi. Et du coup, moi, je préférais être l'entrepreneur qui parlait, qui racontait sa valeur ajoutée, qui racontait combien de personnes il peut employer avec son entreprise, qu'est-ce qu'il peut faire pour changer le Madagascar, enfin, notre situation à Madagascar. Et du coup, voilà, c'était surtout parce que j'interagissais avec des entrepreneurs qui font vraiment des choses dans la vie. Et par rapport à mon parcours finance, alors oui, ça m'aide beaucoup, vu que dans une entreprise, la finance, c'est évident, c'est un des rubriques importantes dans l'entreprise. Et du coup, moi, quand j'étais chez la POA ou chez la Société Générale ou encore chez l'OFAM ou chez Miracap, tout ce que j'ai appris aujourd'hui, en tout cas, ça m'a servi. Surtout par rapport à comment on comptabilise, comment on gère la trésorerie, comment aussi, ça m'a apporté, pas directement, mais en tout cas, ça a apporté quelque chose. Et aujourd'hui, quand je partage avec mes collègues, mes collaborateurs, comment on doit gérer une entreprise, je peux justement m'appuyer sur mes expériences pour avancer mieux. Et aussi, par rapport à ça, par rapport à mon expérience chez Miracap, c'était surtout, comme nous devions conseiller, partager nos idées, partager des stratégies pour que l'entreprise avance. Et du coup, c'était un peu plus facile pour moi d'avoir une vue globale de l'entreprise et de voir comment je pourrais améliorer quelque chose dans mon entreprise à moi. Et aussi, j'ai appris plein de choses chez Miracap. C'est surtout d'avancer très, très vite, de faire les erreurs très, très vite et de corriger très, très vite nos erreurs. Et du coup, avancer, améliorer très, très vite aussi. Et voilà.
Et justement, aujourd'hui, tu es à la tête de Rarial. Il s'est passé quand même très peu de temps entre le moment où tu as quitté Miracap et tu as fondé Rarial. En fait, c'était même l'un et l'autre en même temps, parce que
oui,
tu as déjà eu Rarial d'un côté, c'est un peu ton side project pendant Miracap. Quelles ont été les difficultés pour ensuite quitter Miracap et lancer ton projet? Est-ce que pour toi, enfin, tu étais dans quel état d'esprit? Tu vois, j'ai toujours cette image de... moi, personnellement, aujourd'hui, Malabar, c'est un projet qui est vraiment un side project. Je le fais vraiment à côté de mon boulot. Et donc, quand c'est comme ça, c'est toujours... tu sais que tu le fais par passion, que tu as toujours cette envie de continuer à le faire, mais c'est vraiment quelque chose que tu fais pendant ton temps libre et tu as un job à côté. J'imagine que Miracap, c'était un peu ça. C'était ton job, on va dire, alimentaire, entre guillemets. Et Rarial, c'était vraiment ton side project. Mais ensuite, Rarial est devenu ton job alimentaire. Comment tu as fait pour sauter le pas? Comment tu te sentais émotionnellement? Décris-nous un peu en fait cette grosse étape qui a été un saut dans le vide en fait.
Oui, tu as raison, tu as vraiment misé dans le vide. Alors c'est vrai, vu que j'ai deux. Tu racontes un peu là l'histoire de Rarial. Hein. En tout cas, j'ai participé à un concours qui s'appelait 3i NSKE, où on devait présenter un projet innovant et un projet d'entreprise. Et du coup, j'ai été parmi les lauréats de ce concours. Et du coup, ça a commencé comme ça en 2022, en avril 2022. En ce temps-là, j'étais encore en Master 2, où je devais encore trouver un stage pour mon mémoire et pour ma fin d'études, du coup. Et Rarial commençait en avril 2022, enfin, théoriquement, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien du tout, d'ailleurs. Il y avait juste un projet, il n'y avait personne, il n'y avait que moi et mon idée. Par contre, j'étais incubée chez Nexta, vu que j'ai été lauréat du concours et c'était parmi les lots du concours. Et du coup, je commençais comme ça, je commençais à être accompagnée, à structurer un peu le projet et tout. Mais à côté, je devais quand même trouver un stage pour la fin d'études. Et du coup, j'ai trouvé le stage fin août chez Miracap. Et du coup, j'ai commencé chez Miracap fin août. En même temps, il y avait mon projet qui n'avait pas forcément avancé en ce temps-là. Et par contre, j'étais déjà sur le marché en juin 2022. Et du coup, j'ai jonglé entre les deux, entre tout ce que je devais faire chez l'entreprise et tout ce que je devais faire encore aussi chez Rarial. Et pour être très, très franche, c'était pas facile, c'était pas évident et c'était surtout sur le côté on devait gérer notre temps, on devait savoir qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que je dois faire là maintenant, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui me motive en plus pour que je continue en fait. Et pour ne pas mentir, j'ai aimé mon travail chez Miracap. C'était bien. C'était bien. J'ai fait un parcours finance. C'était de la finance. J'adore l'entrepreneuriat. J'ai rencontré des entrepreneurs. J'étais entourée d'une équipe très jeune et très, très dynamique. Du coup, moi, j'ai aimé mon expérience chez Miracap. C'est ce qui m'a boostée aussi, quelque part. Mais je devais choisir entre Miracap et Rariel parce que je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Vu que, justement, il y avait beaucoup de travail chez Miracap, il y avait beaucoup de travail qui m'attendait aussi chez Rariel. Mais moi, à un moment donné de ma vie, je me suis demandé qu'est-ce que je veux vraiment faire. À long terme, qu'est-ce que je veux vraiment faire et qu'est-ce que je dois faire là maintenant pour atteindre cet objectif-là, en fait.
Tu devais faire un choix, finalement.
Oui, voilà. Fallait faire un choix. Et le choix, en fait, ça s'est basé sur un objectif à long terme. Ce n'était pas pour un objectif à court terme. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'apporte de l'argent? Parce que pour être franche, Miracap était là d'abord pour la sécurité et tout ça. Mais en fait, le paramètre qui m'a aidé à choisir, c'est vraiment l'objectif à long terme. Et mon objectif à long terme, c'était d'avoir mon entreprise à moi. De contribuer au développement de Madagascar. Et le moment est venu où je devais choisir entre ce que je veux vraiment faire à long terme et ce qui m'a motivée pour ce qui me motive aujourd'hui pour se réveiller tous les matins pour continuer à avancer, s'améliorer, apprendre. Et du coup, voilà. Alors, pour être franche aussi, c'était pas facile. Genre, du jour au lendemain, tu te dis, alors là, tu n'as plus d'argent là, hein, tu presque tu es fauché quoi, parce qu'il y a pas forcément d'entrée d'argent pour commencer dans une start-up, et aussi parce que j'ai pas encore atteint mon seuil de rentabilité. Je galérais un peu partout pour les artisans, pour la production, pour le projet en soi. Et du coup, c'était pas facile. Émotionnellement, c'était de l'excitation, mais aussi de la peur. Faut pas se mentir. J'avais peur. Et j'étais excitée à la fois, mais j'avais peur aussi. Mais en tout cas, hein, si on me demande si je regrette ma décision, alors non, pas du tout. C'était la meilleure décision que j'aurais pu prendre cette année. Et je suis fière de moi. Et je suis fière que j'ai pu vraiment prendre cette décision de ma vie. Parce que c'était un choix de vie. C'est pas seulement un choix de carrière ou un choix de filière. C'est vraiment un choix de vie. Et du coup, je voulais choisir. Et voilà. Et du coup, voilà. Je suis
heureuse.
Je gère maintenant l'entreprise. Et voilà.
Ah, mais c'est bien. C'est une belle histoire. J'aime bien savoir un peu comment on quitte un job pour en fait commencer une aventure entrepreneuriale parce que, comme tu le disais, c'est un gros défi quand tu quittes ton job alimentaire, que tu vas aller fonder ta boîte alors que tu sais que bah, tu vas pas forcément gagner beaucoup d'argent, voire pas du tout d'argent au début. Donc, c'est un
oui.
Mais en même temps, quand c'est ton projet, c'est toujours très différent. C'est-à-dire qu'en plus,
oui.
Toi, tu as eu l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs, d'échanger avec eux, de partager leur point de vue, mm-hmm. de pouvoir les aider. Et eux aussi, je suis sûre qu'ils t'ont apporté beaucoup, beaucoup d'idées qui t'ont permis de monter peut-être plus vite ta boîte, d'éviter des erreurs, comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir faire des erreurs et les corriger si besoin et si t'y arrivais. Donc c'est bien, c'est une belle histoire, c'est un très beau projet. Donc maintenant, on va pouvoir parler de Rariel. Donc on comprend que là, tu es en partance pour ton aventure entrepreneuriale. Tu n'as plus Miracap. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu commences à faire, en fait, dès que tu quittes Miracap et que tu commences à y en tant que fondatrice de Rariel.
D'accord. Donc, depuis Miracap, alors, J'ai fini Miracap au mois de mai et du coup, j'étais en plein temps chez, enfin, sur Rarial depuis le mois de juin 2023. Alors, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors, ça fait presque 5 mois que je suis en plein temps sur le projet. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait depuis? Alors, moi, vu que j'étais un peu. Enfin, je suis inculpée chez Nexta, je suis inculpée chez Savtout, qui sont deux incubateurs de start-up à Madagascar. Et donc, avec eux, il y avait quand même un plan que je devais suivre pour continuer l'aventure. Et j'avais des contrats, enfin pas des contrats, mais des débuts de contrats pour avancer, surtout sur le côté digital de Rarial, sur le projet en général. Du coup, je commençais à modéliser un PP pour un partenariat technique. Je devais recruter des artisans pour la production. Je devais recruter une personne qui m'aide dans la partie administrative, dans la gestion du projet en général. Mais surtout, l'objectif qu'en plein temps là, c'est vraiment de lancer la marque sur les réseaux sociaux, de trouver les bonnes personnes, les marques avec lesquelles je veux travailler pour booster la visibilité de la marque et tout. Et du coup, je travaillais sur la partie où je devais préparer tout ça pour le lancement concret de Rarial. J'ai vu que pendant quelques temps, c'était une pause parce que j'ai travaillé. C'était un changement d'histoire. Et du coup, je devais préparer beaucoup de choses pour qu'on lance concrètement Rarial. Et du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Et pour être franche avec moi-même et avec tout le monde aussi, quand j'ai quitté Miracap, j'avais beaucoup de choses à faire et je m'éparpillais un peu. L'avantage pour moi, c'est d'avoir une mère qui connaissait le secteur, qui connaissait le métier. Et du coup, c'était un avantage pour moi. Vu que j'avais un conseiller technique sur la partie production, sur la partie comment trouver des clients et tout ça. Mais par contre, niveau émotionnel, c'était un peu dur, vu que c'est pas tout le monde qui te soutient en fait, et surtout pas la famille, hein. Crois-moi, c'est surtout pas la famille qui te soutient dans l'aventure entrepreneuriale, vu que théoriquement tu as eu un bon job. Et théoriquement, c'était cohérent avec ton parcours. Mais vu que tu as choisi un autre parcours qui n'a rien à voir avec la finance, c'est pas tout le monde qui te soutient. Alors, pendant le mois de juin, juillet, pour être franche, c'était un peu une pause. Peut-être même une pause pour moi émotionnellement et surtout que c'était presque la dépression. Je ne veux pas dire que c'était la dépression parce que c'était pas la dépression, c'était pas encore ça la dépression, mais en tout cas c'était pas facile, c'était très dur à vivre, surtout un côté soutien et tout ça.
Est-ce que c'est toi qui te mettais la pression ou parce que
c'est une pression individuelle. Voilà.
D'accord. Oui.
Voilà. C'est ça, c'est une pression individuelle, tu devais, parce que c'est ton choix en fait, personne t'a forcé à quitter, hein. Personne t'a dit de choisir cette voie-là, c'est toi qui as choisi de quitter ton travail, et du coup c'était une pression morale individuelle, genre je devais trouver cette somme d'argent-là, je devais faire en sorte que ça marche, alors que c'était pas évident dans un sens où ou vu que c'était, j'étais tout le temps chez Miraka pendant les cinq premiers mois, et du coup, il n'y avait pas grand chose de palpable à raconter. Et du coup, je devais quand même trouver les clients, trouver le bon process de production, trouver les bons artisans, qui n'est pas évident d'ailleurs à Madagascar. Bref. Et du coup, pendant les mois de juin, juillet, c'était un peu ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, en mois de septembre et en mois d'octobre, j'ai pu enfin recadrer un peu tout. Et on espère lancer correctement la marque en mois de novembre, avec quelques surprises sur l'application, sur le digital et aussi sur la marque et comment les gens peuvent concrètement personnaliser leur sac. Et voilà.
D'accord. Alors justement, toi qui as eu l'habitude de faire des pitchs, j'imagine, sur ta marque, sur Rarial, est-ce que tu peux nous présenter en quelques secondes ce qu'est Rarial et ce que tu fais, ce que tu apportes à Madagascar grâce à ta marque?
Ok. Alors Rarial, en fait, comme j'ai expliqué au tout début, c'est une marque d'articles en fibres naturelles, en raffia notamment, d'articles personnalisés. Alors, la marque qui vient de deux mots, rare et al, en fait, rare qui en référence à la satane, vraiment le rare, la façon de crocheter, et le al qui fait référence aux fibres naturelles de Madagascar, et d'où le nom Rarial. Donc Rarial. Et en fait, ce que nous voulons représenter par la marque, c'est surtout le talent, la créativité et l'originalité de ce que les artisans peuvent faire à Madagascar. C'est surtout axé sur le talent, d'où justement le mot rare dans la marque. Et du coup, Rarial n'est pas simplement une marque, vu qu'il y a beaucoup de marques à Madagascar, dont dans le secteur de l'artisanat, il y a quelques marques. Mais Rarial, en fait, la différenciation, c'est surtout l'alliance du digital et de l'artisanat. Alors quand je raconte ça, quand je dis ça, il y a toujours les gens qui disent « Ah, comment tu fais ça ?» Alors le digital dans Rarial, c'est une application où, en fait, les clients peuvent choisir eux-mêmes, genre modéliser eux-mêmes leur sac en choisissant la forme, les points, l'anse, la couleur. Et du coup, en gros, on confectionne les sacs, le sac de rêve de la personne qui reflète justement sa personnalité, son originalité, sa différence par rapport aux autres femmes. Et voilà.
Et du coup, ça veut dire que chaque personne aura un sac différent ? Ou est-ce que, par exemple, vous avez des modèles basiques qui peuvent être achetés et non personnalisés que n'importe qui peut acheter et du coup, il y aura des clients qui auront le même?
Alors, oui. Alors, il y a des gens qui veulent des sacs très personnalisés, ils veulent cette couleur-là. Mais il y a aussi des gens qui veulent un sac qui est prêt à porter, en fait. Et du coup, il y a des modèles qu'on confectionne justement qui représentent justement le talent des artisans, qui est un peu original, qu'on essaie de différencier par rapport au design. Et voilà. Et du coup, aussi par rapport à la personnalisation, justement, on propose quand même des modèles. Il y a des gens qui veulent quand même changer quelque chose dans le modèle qui est déjà affiché. Du coup, ils peuvent quand même choisir leur couleur, peut-être l'anse, peut-être un détail sur le modèle. Et voilà. Et du coup, il y a le design personnalisé. Il y a le design presque personnalisé avec un design qu'on a fait nous-mêmes. Et il y a le design qu'on a fait, qu'on sait que les artisans font et que les gens achètent tout de suite.
Et du coup, vous adressez à quel type de classe sociale? Parce que si d'abord, il faut avoir une application, donc il faut avoir un téléphone, il faut avoir une application, il faut savoir utiliser son téléphone pour acheter, avoir une application pour payer. Mm-hmm. C'est quel type de classe sociale que vous visez? Et si tu peux nous donner des idées de prix aussi, Alors, tu peux parler en aria ou en euros ou ce que tu veux. C'est juste pour avoir une idée, en fait, parce que, tu vois, on parle du digital, on parle de personnalisation, on parle de sac à main, on parle d'artisanat. Je pense que tout de suite, les gens vont se dire « Waouh, ça doit être super cher ». Alors, peut-être que ça l'est, tu vas nous le dire. Donc, si tu peux nous donner ces informations pour avoir une idée, s'il te plaît, François.
Alors, nous, nous adressons à un clientèle qui a un pouvoir d'achat assez élevé à Madagascar. Alors, aujourd'hui nous travaillons pour les clients à Madagascar. Pour commencer, bien sûr, on voudrait aller à l'international pour un objectif un peu plus moyen terme. Mais aujourd'hui, nous sommes à Madagascar et on doit avoir aussi de l'expertise sur le côté personnalisation, voir un peu comment on reste sur la production et tout. Et aujourd'hui, on s'adresse à une clientèle qui a un pouvoir d'achat assez élevé, un CSP+, une femme aujourd'hui qui veut se différencier par rapport aux autres. Qui veut afficher sa personnalité, quelqu'un qui veut se montrer, en fait, quelqu'un qui se dit que je suis fière d'être moi, et quelqu'un qui le montre, voilà. Et du coup, aujourd'hui, le sac totalement personnalisé pour Ariel, ça dépend justement du design, de la difficulté du sac. Mais aujourd'hui, ça coûterait entre 150 000 arrières à 300 000 arrières.
D'accord. Et du coup, j'avais une question concernant ça, parce que tu dis c'est la volonté, c'est de bien sûr viser les femmes. Pour des sacs à main, sans surprise. CSP Plus, une femme fière qui a envie de le montrer. Aujourd'hui, on parle beaucoup. Alors, ce podcast, il s'adresse beaucoup aux gens qui ne vivent pas à Madagascar. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas à Madagascar qui sont de la diaspora. On parle beaucoup de la dangerosité de Madagascar, du fait qu'il ne faut pas mettre des bijoux, des valeurs, des choses de valeur à Madagascar parce que c'est dangereux et qu'on peut tout de suite te cibler, en fait, et te voler. Ou en tout cas de t'agresser. Est-ce que ce type de produit est, selon toi, compatible avec une vie à Madagascar, ou est-ce que tu penses que c'est le genre de produit qui est plus utilisé dans des endroits peut-être plus intérieurs et tu ne te balades pas au marché, par exemple, avec ce sac?
Alors justement, les sacs personnalisés pour le coup, c'est pas un sac où on se balade avec pour aller au marché, ou c'est un sac plutôt adapté à un événement classe où tu es invité à un événement où c'est important de s'habiller correctement. Et moi, je trouve plutôt que, vu que le sac, ce n'est pas tout le monde qui peut l'offrir. Et du coup, ça dépend vraiment des cibles, en fait, qui fait que c'est compatible aussi à la situation actuelle de Madagascar. Alors, il y a des gens qui peuvent s'en offrir. Ce n'est pas tout le monde, justement. Mais justement, il faut savoir cibler les gens qui veulent un sac personnalisé, qui peuvent s'offrir le prix. Et voilà. Et peut-être sur la partie digitale, personnalisée, tout ça, il y a quand même un potentiel justement pour les clients à l'étranger, notamment le diaspora qui est fier de porter du malgache. Et qui veulent aussi l'artisanat, justement, c'est le fait à Malacca, c'est une fierté pour eux. Et du coup, voilà, c'est surtout par rapport aux cibles. Mais en tout cas, ce n'est pas tout le monde qui peut l'offrir. Mais justement, c'est ce qui apporte une valeur ajoutée au sac.
Oui, parce que, en fait, je te pose toutes ces questions parce que moi, mon audience est plutôt féminine. Alors, contrairement aux invités qui sont sur le podcast, qui est majoritairement masculin, mon audience est plutôt féminine. Et elles ont entre une trentaine d'années et jusqu'à 55 ans. Donc, je pense que c'est pile dans la target de Rarial. Et elles sont majoritairement basées à l'étranger, en France et aux États-Unis. Mmh. Du coup, c'est pour ça que je te pose la question, parce qu'elles seront peut-être intéressées par tes produits. Oui. Ce qui serait super.
Oui.
Chez Malabar aussi, ce qui est important pour moi, c'est bien sûr de partager le parcours, la marque, l'histoire et l'apport économique à la population locale. Alors tout à l'heure, tu nous parlais bien sûr des matériaux, des matières premières que tu utilises pour faire tes sacs. Ce que j'aimerais savoir, c'est aussi les gens que tu emploies aujourd'hui qui font des sacs avec toi ou avec qui tu dessines. Je ne sais pas si c'est toi qui fais les créas. Si tu as une équipe derrière, est-ce que tu peux nous parler un peu de toute la partie création, conception, avec qui tu travailles et surtout ce que tu recherches à mettre en avant dans le design de tes produits?
D'accord. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout des artisanes, enfin des femmes majoritairement, qui travaillent avec nous. Pour le côté design, c'est surtout ma mère qui dessine. Enfin, alors moi, je contribue au dessin, mais c'est elle majoritairement qui s'occupe du design et du dessin des collections de Rarial. À part ça, est-ce qu'on veut vraiment montrer ce que l'on veut afficher sur les produits de Rarial, c'est surtout la qualité, mais surtout la petite différence qui fait que ça soit directement vu comme le produit de Rarial. Alors nous, on a des crocheteuses, enfin des personnes qui sont expérimentées dans les crochets, dans les différents points et tout ça. Mais à côté, nous avons aussi des gens professionnels du macramé. Et du coup, on allie ces deux talents-là, ces deux expertises-là, qui fait que le modèle de Rarial est un peu différent des autres. Justement, parce que c'est pas tout le monde qui maîtrise le macramé. Et nous, on allie justement le crochet avec le macramé. Du coup, on peut faire beaucoup plus de design avec ce style de point et beaucoup plus d'idées en fait pour les clients aussi qui veulent changer un peu de style par rapport au crochetage des produits.
Et
voilà.
Et aujourd'hui, concrètement, vous avez combien de personnes je ne sais pas si vous avez un atelier, si vous faites ça à la maison et que vous avez, je ne sais pas, des artisans qui viennent chez vous. Mais il y a combien de personnes concrètement qui travaillent avec vous?
D'accord. Alors nous avons un atelier qui est en bas de chez nous. Et aujourd'hui, il y a des personnes temporaires, il y a des personnes qui restent, qui mangent chez nous, qui dorment chez nous. Alors, pour les personnes qui dorment et qui mangent chez nous, il y en a une quinzaine de personnes, il y en a 15. Et pour les personnes temporaires, il y en a 20 de plus. Du coup, à peu près une trentaine de collaborateurs de plus pour, en général, dans tout le compte qui est chez Rarial. Alors, la différence entre les temporaires et les personnes qui restent, alors on a besoin de gens qui sont là, qui peuvent directement confectionner les commandes de nos clients. Mais à côté, on a aussi des contrats de sous-traitance des autres marques qui a besoin de plus d'artisans en fait. Et voilà, et du coup, à peu près, nous collaborons avec une trentaine de personnes, une trentaine d'artisans, mais le volume, enfin, le nombre de personnes variera aussi du volume de la commande, et surtout par rapport à la traitance, en fait.
Et est-ce que vous avez alors là, ça fait pas très longtemps non plus que Rariel existe, mais est-ce que tu as ce problème de turnover qui est assez élevé chez Rariel? Est-ce que tu as pu y faire face? Ou pour l'instant, tu te rends compte que non, c'est plutôt facile de maintenir tes artisans chez Rariel pour travailler avec toi?
Alors oui, alors il y a beaucoup déjà d'artisans qui ont déjà fait un va-et-vient chez Rariel. Peut-être c'est surtout sur le côté des artisans qui veulent travailler à l'atelier. Ça c'est un problème justement pour le suivi de commande, sur le suivi de contrôle qualité des produits. Ce que les artisans en tout cas, c'est un comportement qui est normalisé chez les artisans, c'est de produire chez eux et pas de rester dans l'atelier, qui pose un problème justement, c'est sur le contrôle qualité. Mais par contre, il y a des gens justement qui veulent quand même rester à l'atelier s'il y a plus d'avantages de rester. Aujourd'hui, nous, ce que j'ai rencontré en tout cas comme problème par rapport au personnel, par rapport aux artisans, c'est surtout que les gens ne veulent pas rester à l'atelier, ils veulent travailler chez eux. Et de deux, c'est très difficile de trouver des artisans talentueux qui peuvent justement faire ce que l'on demande justement. Il y a des artisans, il y en a beaucoup à Madagascar, beaucoup, beaucoup, mais des gens qui savent faire de la qualité, qui savent maintenir la qualité, ça, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, oui, on rencontre ce problème-là. Mais par contre, peut-être comme solution aujourd'hui, en tout cas, c'est surtout par rapport au prix, par rapport à leur rémunération, plus en fait tu les rémunères, plus ils sont motivés, ce qui est normal. Et du coup là, c'est un point. Et deuxièmement, pour les gens qui restent à l'atelier, c'est surtout les avantages qu'ils peuvent justement avoir comme pour qu'ils puissent avoir envie de rester. Et du coup, c'est peut-être avoir des avantages sociaux comme la CNAPS, l'OSTI, le fait de rembourser leurs frais s'ils habitent loin, le fait de quand même leur rémunérer correctement et justement par rapport à leur travail, qui font que les artisans ont envie de rester malgré tout. Voilà.
D'accord, très bien, merci. Merci beaucoup, Francia. Ça donne envie, c'est une belle histoire. Je trouve que c'est aussi important de montrer, au-delà du marque que l'on crée, et tu as dû voir chez Miracap, comme tu me disais tout à l'heure, une marque, c'est d'abord une histoire, un humain, et il faut apporter aux autres. Et c'est ce que j'essaie aussi de montrer chez Malabar, que c'est bien de vouloir lancer sa marque, de vouloir lancer son projet, mais c'est bien aussi de vouloir aider le pays à sa façon, hein. C'est pas forcément aider, c'est un grand mot, mais c'est au moins apporter quelque chose, de la valeur ajoutée, parce qu'on sait que chez les Malgaches, oui, il y a beaucoup cette tradition du fiavan qu'on a, donc je pense que c'est aussi important de l'honorer. Pour terminer, Francia, je vais te poser cinq petites questions sur Madagascar, qui sont des questions personnelles pour avoir un peu ton point de vue sur le pays. Est-ce que tu es prête?
D'accord, oui, je suis prête.
Alors, quel est ton lieu préféré à Madagascar?
Mon lieu préféré. Alors moi, j'ai pas beaucoup voyagé à Madagascar, mais peut-être. J'ai découvert Tamata, Ventirapé, Antananarivo et Tuléar. Et du coup, je préfère Tuléar. Voilà.
Ton plat malgache préféré?
Mon plat malgache préféré. Alors, le Raftout et les la rue Raftout et Naxo.
Ton plus beau souvenir à Madagascar?
Plus beau souvenir. Alors, c'était aussi à Toulière où j'ai. Enfin, c'était à Toulière. C'était quand j'ai voyé en fait le paysage et tout ça, c'était un meilleur, c'est un meilleur souvenir que j'ai aujourd'hui.
Un mot ou une expression qui pour toi décrit parfaitement Madagascar?
Attends, alors là c'est un peu plus compliqué. Attends, je réfléchis un peu là.
Oui, oui, vas-y, vas-y. Attends. Pour t'aider un peu, on m'a dit aller, femme, mon amour.
Ah, ok.
Ça peut être quelque chose que alors, toi, tu dis tout le temps. Ça peut être que tu répètes souvent ou que tu entends souvent.
Attends, je réfléchis bien. Alors pourquoi? Alors peut-être pas vraiment une expression, mais en tout cas ce que j'entends des étrangers, enfin pas des étrangers, mais des Malgaches qui habitent. Loin de chez nous, loin de Madagascar, c'est Afayam Madagascar.
Ah, c'est bien ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi?
Alors, vu que c'est notre pays aussi, c'est chez nous. Et du coup, malgré le fait qu'on part partout, on a toujours ce sentiment d'appartenance. Et surtout, enfin, ce que les gens, en tout cas, disent, hein, moi, j'ai jamais eu encore l'occasion de quitter Madagascar aujourd'hui, mais peut-être la bouffe, c'est encore, c'est bon ici, d'après eux. Il y a encore le goût, enfin, le vrai goût de l'aliment, de la nourriture. Et voilà quoi. Et aussi, c'est à Madagascar en fait qu'on entend beaucoup d'histoires. Genre, c'est un peu différent Madagascar quoi. C'est Madagascar.
Mm-hmm. D'accord. Et pour terminer, est-ce que tu as un message que tu aimerais passer aux auditeurs de Malabar? Donc, ça peut être quelque chose dont on a déjà parlé ou quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé. C'est un message que tu peux adresser aux auditeurs.
Alors, un message que je voudrais partager peut-être pour les personnes qui veulent entreprendre. Pour moi, le conseil que je pourrais partager aux gens qui veulent entreprendre, c'est de savoir en fait notre objectif à long terme. C'est de savoir notre vision à long terme. Si on sait au fond de nous ce que l'on veut vraiment faire, personne ni quoi que ce soit pourra nous empêcher de continuer et de s'améliorer malgré tous les obstacles qu'on pourrait avoir pendant le chemin. Si on sait où on va, on sait pourquoi on le fait, personne ne pourra nous empêcher d'atteindre notre objectif.
Voilà. Super, c'est un très beau message. Frances, si les gens veulent te contacter ou t'envoyer un message pour en connaître un peu plus sur toi ou sur Arial, où est-ce qu'ils peuvent te contacter?
Alors, ils peuvent me contacter directement sur LinkedIn si c'est plus facile pour eux. Sinon, sur Instagram, c'est françaisrassoanaïf. C'est sur Facebook aussi, c'est françaisrassoanaïf. Sur WhatsApp, c'est... je peux te donner mon numéro ou...
Oui, c'est toi et tes choix. Il y a des milliers d'écoutes sur Malabar. C'est toi et tes choix.
Alors, Alors, venez d'abord sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, et du coup, on pourra continuer sur WhatsApp si on peut discuter davantage.
D'accord, voilà. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Francia. Je te souhaite une très belle continuation et on se dit à très bientôt.
Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'était très beau. C'était une belle expérience de te revoir un peu plus mon parcours. Et merci de m'avoir choisi aussi Sambatch. Et bon parcours aussi pour toi sur ton podcast. Merci.
Merci, merci beaucoup.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn Sambatch Rappé Farnouche. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeyo, velum.